L'Agence française des chemins de Compostelle propose une réflexion sur les bienfaits de la marche, Isabelle Duché.
Marcher pour guérir, c'est le thème de la rencontre dédiée aux bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Cette journée est proposée en partenariat avec la commune de Saint-Lizier, le centre hospitalier d'Ariège-Couserans et l'Agence française des chemins de Compostelle. Elle aura lieu ce vendredi à Saint-Lizier, le 21 novembre. La troisième rencontre des chemins de Compostelle abordera les thématiques suivantes: le corps et la marche, la santé mentale et la nature, la nutrition et le territoire, la randonnée du fait social au développement territorial. Deux des intervenants de cette journée sont les invités de Radio Présence ce matin, l'un sur les aspects énergétiques et biologiques, l'autre sur les aspects psychiques et psychologiques justement. Nous commençons avec vous, docteur Laurent Schmitt, puisque vous avez une consultation juste après. Vous êtes psychiatre au CHU de Toulouse et membre correspondant de l'Académie de médecine. Lors de cette journée, vous allez aborder précisément la question de la marche comme inclusion réciproque du dehors et du dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ?
C'est assez simple. Quand on marche, on a d'une part toutes les sensations internes, le poids du corps, la fatigue, la transpiration, ainsi de suite. Et puis, il y a tout ce qui est externe, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, des choses aussi élémentaires que le vent, la température. Et tout ça, à un moment, se mélange et arrive à créer une sorte de liberté. Et c'est ce mélange qui est une inclusion réciproque. L'inclusion réciproque, c'est simple, c'est quand quelque chose appartient à autre chose, mais cet être autre chose appartient aussi à l'élément premier.
Mmh. Oui, on voit bien que c'est imbriqué.
Exactement.
Qu'est-ce que le fait de marcher, quand vous accompagnez donc des patients qui ont des maladies psychiques, qu'est-ce que le fait de marcher, quand vous leur conseillez de le faire et qu'elles le font, produit dans leur psychisme justement ?
Eh bien, la marche, c'est d'abord une forme de liberté et au bout d'un certain temps, il y a une sorte de flottaison et des pensées et de son état, c'est-à-dire on est un peu libéré des contingences du quotidien, on est un peu libéré des soucis et au bout d'un certain temps, eh bien, l'esprit s'évade. Ce phénomène lutte contre les ruminations, c'est-à-dire ces espèces de pensées qui reviennent et qui, quand on a des soucis, sont des pensées qui vous meurtrissent un peu, et permet de s'évader et des fois de trouver une forme ou une autre de plaisir.
Mmh. Dans les patients que vous suivez, qui ont, j'imagine, des médicaments, est-ce que justement le fait de marcher peut faire diminuer cette prise de médicaments ?
Alors, c'est une aide assez puissante dans le cas et de l'anxiété et de la dépression, parce que ça provoque une forme de détente et de relaxation qui va permettre par ricochet de réduire les traitements. Et on a montré, et mon collègue Fabien Pillard le dira mieux que moi, qu'au bout d'un certain temps, si on a environ plus d'une heure et demie de marche par semaine, eh bien, on réduit l'anxiété et la dépression, et on le réduit de manière assez nette. D'où la possibilité de réduire les traitements.
Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, les bénéfices sont indéniables. Est-ce que la marche, ça permet aussi, alors pas forcément pour des malades, mais pour tout un chacun, de réfléchir autrement ? Est-ce que ça oxygène le cerveau, si on peut dire les choses comme ça ?
Alors, c'est une excellente question. Il y a eu une étude, il y a quelques années, qui a montré que les personnes qui marchaient régulièrement avaient une créativité, une possibilité d'avoir des éléments nouveaux dans leur réflexion et des fois de produire des choses nouvelles, qui étaient augmentées de 15 à 20%.
Oui, c'est
et des deux, j'allais dire, personnes très célèbres de la Silicon Valley, du style Gates et Zuckerberg, faisaient des réunions en marchant, tout simplement parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient plus productifs et plus réactifs que simplement assis dans un fauteuil.
Mmh. Oui, et puis il y a aussi le fait d'échanger qui est aussi stimulant
Exactement.
Pour la créativité.
Donc ça augmente quand même les capacités créatrices.
D'accord. Est-ce que vous voyez un autre avantage de la marche sur le psychisme ?
Alors, je crois que l'élément essentiel, c'est la libération comme un étau qu'on desserrerait par rapport à des pensées qui sont des fois des pensées qui sont difficiles à supporter. Ça, c'est l'effet essentiel de la marche. Ce qui donne une, une impression de, bon, de, j'allais dire de légèreté, si pas de légèreté, en tout cas de mieux-être.
Est-ce que la marche libère ces hormones du plaisir, la sérotonine, c'est ça ou la...
Alors, ça va être dit de manière plus précise dans quelques minutes, mais ce que l'on sait maintenant, c'est que ça diminue le stress oxydatif, c'est-à-dire que par rapport à certaines substances qui sont des éléments qui sont oxydants dans le cerveau, eh bien, la marche diminue, ça diminue l'inflammation, parce que tout le monde dit « Ah, mais ça augmente les endorphines », c'est-à-dire, mais il y a des éléments plus précis actuellement et plus spécifiques que la marche améliore.
D'accord. Est-ce que vous pouvez faire ce constat aussi par, en regardant l'image du cerveau, l'imagerie du cerveau ?
Alors, ça a été montré qu'il y a, j'allais dire, lorsque on marche, une meilleure implication de plusieurs structures cérébrales au niveau frontal, au niveau des noyaux gris centraux. Ça peut se montrer. Et quelqu'un qui marche, finalement, a une meilleure implication de plusieurs structures cérébrales que quelqu'un qui reste dans son canapé, dans son fauteuil sédentaire.
Mais alors ça veut quand même dire qu'il faut marcher sans être à l'écoute, de, par exemple, d'un podcast ou sans avoir son attention qui est prise par autre chose, non ?
Alors, c'est plutôt mieux si on est en lien direct avec la nature.
Voilà, c'est ça.
Et votre remarque est tout à fait juste, c'est-à-dire que si... on écoute, je ne sais pas, les cours de la bourse en même temps qu'on marche, ça n'a pas le même effet que si on regarde le paysage et qu'on s'imprègne. Et c'est ça la dimension d'inclusion réciproque, c'est-à-dire que l'extérieur vous pénètre un peu et vos sensations internes se mêlent à ce que vous traversez.
Oui, et puis on entend bien que dans la dimension de la marche dans la nature et ce qui est proposé évidemment sur les chemins de Compostelle, c'est cet éveil des cinq sens.
Exactement. Et peut-être que ce qui est intéressant dans les chemins de Saint-Jacques, c'est que bien sûr on est dans la nature, bien sûr on traverse des paysages, mais comme on sait qu'il y a un but qui est quand même... Alors, de manière souvent par étapes, il y a beaucoup de gens qui font des fragments du chemin de Saint-Jacques, mais qui est quand même, il y a une sorte de visée spirituelle, mais quelle que soit la confession de la personne, ça a un rôle quand même de réflexion.
Oui, un psychothérapeute, Pierre-Yves Brissiot, disait qu'en marchant, on se retrouve relié au ciel et à la terre, les pieds reprennent racine et la tête s'évade vers le haut. Il y a une dimension de quête spirituelle dans la marche.
C'est très juste.
C'est très juste. Bon, vous confirmez les propos d'un confrère. Je vous laisse filer, docteur Laurent Schmitt, parce qu'il est déjà l'heure de rejoindre votre premier patient de la journée. Je rappelle que vous êtes psychiatre au CHU de Toulouse et membre correspondant de l'Académie de médecine. Et je vous remercie d'être venu ce matin sur Radio Présence. Je me tourne vraiment vers vous, docteur Fabien Pillard. Vous êtes médecin du sport et physiologiste au CHU aussi. Vous travaillez dans le service de cardiologie de l'hôpital Pierre-Paul Riquet. Et vous allez aussi intervenir lors de cette troisième journée, troisième rencontre des chemins de Compostelle qui aura lieu vendredi. Vous intervenez sur les aspects énergétiques et biologiques. On va parler d'abord de ce premier aspect, l'aspect énergétique. Qu'est-ce que la marche apporte comme énergie à l'organisme ?
Alors, je ne sais pas si elle apporte de l'énergie. En tout cas, elle apporte une énergie, comme l'a dit Laurent Schmitt, probablement vitale.
Oui.
Mais elle permet surtout, moi c'est le sens de mon propos, d'améliorer la dépense énergétique. Parce que le sens de mon propos, c'est d'expliquer que la dépense énergétique est nécessaire pour équilibrer tout un tas de phénomènes. Et cette activité physique, la marche, qui fait partie de toutes les activités physiques, a un intérêt en ce sens. Elle fait partie des éléments quotidiens avec lesquels on peut jouer pour augmenter notre dépense énergétique qui est absolument nécessaire à la survie et à l'amélioration de l'état de santé. En fait, l'idée, c'est de présenter l'activité énergétique, la dépense énergétique quotidienne comme un facteur de bonne santé, à la fois pour prévenir les maladies, mais aussi pour pouvoir les traiter.
D'accord. Qu'est-ce que vous appelez exactement dépense énergétique ?
Alors, c'est très simple, quand vous marchez, quand vous courez, quand vous pédalez, un peu comme une voiture, vous exprimez une énergie mécanique pour vous déplacer, sauf que notre corps n'a absolument aucune possibilité de générer spontanément de l'énergie mécanique. Il est obligé de transformer une énergie biologique en une énergie mécanique. Et donc, la dépense énergétique, c'est tout simplement l'énergie que vous dépensez pour générer une énergie biologique qu'ensuite le muscle va être capable de convertir en une énergie mécanique.
D'accord. Alors, vous dites que c'est important non seulement pour guérir, mais aussi pour prévenir. Est-ce que vous pouvez développer ?
Alors, moi, c'est très simple. Je vais m'appuyer sur des preuves, on va dire, des preuves, des recommandations. Alors, vous parliez, Monsieur Schmitt, de l'Académie nationale de médecine. L'Académie de médecine, l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé, tout un tas de l'Inserm, tout un tas de grandes sociétés savantes aujourd'hui font état du fait que l'activité physique est reconnue comme un des puissants, entre guillemets, médicaments. Aujourd'hui, c'est une vraie thérapeutique pour prévenir et traiter tout un tas de pathologies d'évolution chronique. Bien entendu, en fonction de l'état du patient, on adapte la dose, on adapte la prescription, les contre-indications à certaines activités aussi. Mais aujourd'hui, c'est reconnu comme un réel outil thérapeutique. Et en France, alors je ne connais pas toutes les étapes, on va dire, au niveau international de l'utilisation de l'activité physique comme outil thérapeutique. Mais en France, aujourd'hui, on l'a prescrit, puisque au Code de la santé publique, il y a effectivement une possibilité, il y a un texte en fait qui indique que tout médecin peut prescrire de l'activité physique. Alors c'est pas une notion de remboursement
quand on parle
de prescription, mais en tout cas c'est pour valider la notion d'intérêt thérapeutique et la notion d'entité thérapeutique de cet outil qui est l'activité physique dont la marche fait partie.
Sur les bienfaits sur le corps lui-même, sur le fonctionnement de l'organisme.
Vaste débat, vaste intérêt, ça fait du bien à peu près partout, j'ai envie de dire, du moment que c'est bien pratiqué, en termes de dose et en termes de contre-indication ou en termes d'adhésion aussi du patient. Les bienfaits, c'est qu'en fait, il faut voir la marche et l'activité physique d'une façon générale comme un stress biologique. Et à partir du moment où vous stressez un système biologique, ce système, normalement, a toutes les possibilités de lutter contre ce stress et donc de développer ce qu'on appelle des contre-mesures, d'adapter ce qu'on appelle aussi la résilience, peut-être un terme que vous connaissez, qu'on a connu il n'y a pas longtemps avec le Covid. La notion de résilience, c'est un terme aussi biologique, et quand vous stimulez un système, si vous le stressez, il va développer des systèmes de résilience qui vont lui permettre d'être plus fort pour lutter un peu plus contre le stress et donc de survivre. En clair, vous mettez un système en l'absence de stress, ce système meurt.
Ah d'accord.
Voilà. Simplement. Donc l'idée, c'est de contraindre à la bonne dose, avec la bonne activité, en clair, puisqu'on parle d'activité physique, de façon à stimuler sans dégrader. Et au fil du temps, en fait, on va construire cette résilience biologique qui va amener à une meilleure capacité de lutte, ce qu'on appelle faire face. Les Anglais appellent ça le coping, les Anglo-Saxons le coping. Et le système biologique va faire face aux agressions et ça va vous permettre de prévenir, voire de traiter certaines pathologies.
En tout cas, c'est intéressant parce que quand vous dites que la marche est prescrite comme traitement, c'est tout un avantage pour, en tout cas, on l'a vu, les aspects psychologiques et puis les aspects physiques. Et puis, évidemment, pour la sécurité sociale, c'est tout bénéfique.
Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, j'espère que beaucoup en sont convaincus, notamment au niveau des pouvoirs décideurs, où en seront convaincus, puisque effectivement, ça peut être envisagé comme un outil potentiellement remboursé un jour.
Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, docteur Fabien Pillard, d'être venu ce matin. Je rappelle cette troisième journée de rencontre dédiée aux bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit, ou comment les chemins de Compostelle contribuent au bien-être et à la santé. C'est ce vendredi 21 novembre de 9h à 18h au centre hospitalier Ariège-Couserans à Saint-Lizier, dans l'Ariège justement. Et des actes seront publiés. Merci à vous.
Merci.